In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Bonjour à tous et bienvenue pour la balado numéro 47 qui démarre au Conquet et qui va se terminer à Brest. Bon, mais rassurez-vous, je ne vais pas m'arrêter à Brest, il va bien falloir que je rentre. Et puis je compte aller à la Pointe du Raz, donc voilà, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais bon, c'était quand même Strasbourg-Brest, mais c'était aussi du Rhin au Raz. Là, je suis au Conquet, chez Lisa et Xavier, et il y a Louesa et Cléo, et Martin, le copain de Louesa. Pourquoi tu rigoles, Martin? J'ai mal prononcé ton prénom?
Non, c'est carrément bon, là.
Bon, ah, bah, j'ai eu peur, hein, parce que si je fais des fautes... Lisa, elle est enseignante remplaçante, et Xavier, il est à la SNCF. Bon, Lisa, quel est ton rêve?
Moi, mon rêve, c'est de rester le plus longtemps en bonne santé pour pouvoir profiter un maximum de ma famille et de mes amis, de partager de bons moments avec eux et de continuer à voyager. Et puis, bah, des rêves, voilà, j'en ai déjà réalisé pas mal, puisque tu vois, t'es au Conquet, là, et mon rêve, un de mes rêves, c'était de pouvoir vivre en bord de mer. Donc, j'ai réalisé déjà ce rêve-là et plein d'autres aussi, d'ailleurs.
Tu veux voyager? T'as envie d'aller où?
Alors, j'aimerais découvrir, par exemple, d'autres continents. J'aimerais aller, par exemple, aux États-Unis. J'aimerais bien aller aussi en Asie. Et puis, pourquoi pas m'installer plus tard en Corse.
Non, mais déjà ici, tu es face à la mer. Ouais. Jamais contente, mon pauvre Xavier. Tu avais quand même fait un bel effort. Toute cette maison, là, je suis arrivé, tu étais en train de la ravaler. Tu as encore de la peinture sur les doigts, d'ailleurs. Ça s'en va pas. Alors, Xavier, c'est de quoi ton rêve, toi?
Oh, c'est un peu similaire.
Et t'as aussi envie d'aller vivre en Corse?
Ah non, moi, j'aime bien ici. Moi, je préfère ici. Je suis un Finistérien.
C'est toi le vrai Breton ici?
Ouais, je suis né à Brest.
Elisa, toi, t'es d'où, toi?
Alors moi, je suis de Verdun. En fait, je suis tombée amoureuse d'un Breton. Et après, je suis tombée amoureuse de la Bretagne. Et puis, je suis venue m'installer en Bretagne.
Oui, attends, tomber amoureuse de la Bretagne, c'est un peu vite. Quand tu dis que tu veux aller vivre en Corse, excuse-moi, mais là, tu perds toute crédibilité. Ouais. Là, hein.
Il y aura un petit peu plus de chaleur en Corse, peut-être. Ah, oui. Voilà, mais bon, non, on est bien ici, c'est super. Ouais, ouais.
De là où je suis assis, je vois Molène. Si je me penche un peu, je vois Ouessant, le phare de la Pointe Saint-Mathieu, la mer. Là, actuellement, c'est un temps un peu gris. Et alors, Louesa, c'est quoi ton rêve?
D'obtenir mon diplôme. Et après, d'avoir un travail qui me plaît et puis pouvoir voyager avec mon copain Martin autour du monde parce qu'on a commencé déjà à pas mal voyager. Et c'est vrai que notre objectif est de voir le plus de pays dans le monde. Donc, voilà.
Alors, quel est le pays qui t'a le plus marqué?
Les États-Unis.
Toi, t'as vu les États-Unis et ta mère, elle l'a pas encore vu.
Ouais, bah, on a failli y aller ensemble, mais finalement, ça s'est pas fait. Donc, on a été tous les deux. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même vie qu'ici, quoi.
Mais alors, ton école, c'est...
C'est CESI, à Brest. C'est une école d'ingénieurs au départ, et puis il y a des filières tertiaires dans le management. Et moi, je suis en ressources humaines.
Et Martin?
Moi, mon rêve, comme a dit Loé, c'est qu'on voyage ensemble, découvrir des pays. Aussi être diplômé de mon école d'ingé.
C'est la même école?
Non, c'est à Lorient, l'NCBS. Et après, voilà, c'est ça, avoir un métier qui me plaît. Et que Brest aille en Ligue des Champions aussi, l'année prochaine. Ça aussi, ce sera un bon rêve qui va se réaliser.
Allez, Brest.
Et voilà, on a fait le tour.
Alors Cléo, je vous le dis, hein, il ne voulait pas trop parler, mais il va faire un effort pour la balado. Quel est ton rêve?
D'avoir un bon PC pour travailler et pour jouer.
Pour travailler, parce que c'est vrai que là, en ce moment, tu travailles dans des conditions déplorables.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais.
De voyager aussi et de réussir dans mes études aussi.
Et quel genre d'études tu as envie de suivre?
Plus vers la marine. Dans la mécanique. Et après, peut-être faire plongeur-hélicoptère.
Plongeur-hélicoptère?
Oui. Bah, c'est être hélitreuillé sur la mer pour sauver des gens qui sont en difficulté.
Il y a une chose dont j'ai oublié de parler, c'est que Lisa et Xavier, ils sont passionnés de flippers. Donc il y a deux flippers dans le salon, il y en a je ne sais pas combien dans le garage. J'ai fait une partie de flipper, mais moi, j'ai rajeuni 40 ans, quoi. Parce que moi, à 18 ans, on allait au café, là, le Jungle Queen ou des trucs comme ça, là. Et donc, ça vous vient d'où, cette passion du flipper?
Alors, ça, c'est Lisa. Ah.
Bah, en fait, c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, on allait donc dans les cafés et les copains, copines jouaient au baby-foot. Moi, le baby-foot, ça ne m'intéressait pas trop, je jouais au flipper. Bon, ça me coûtait un peu plus cher, mais j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit qu'un jour, chez moi, j'en aurais un. Et puis, on a commencé, enfin, j'ai essayé de décider Xavier d'en louer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai loué un jour pour mon anniversaire un flipper. Et puis, on en a loué deux, on en a loué trois. On s'est dit, à un moment, on va arrêter de les louer, ça va nous revenir cher. Il serait temps d'investir. Donc, on en a commencé à en investir. On en a acheté un, deux. Et puis, tu vois, maintenant, on en a six. Et bah ouais, l'idée, ce serait d'en avoir plus. Mais bon, après, c'est pas toujours facile à caser dans la maison. Il faudrait qu'on fasse une extension. Mais bon, voilà, après, non. On adore jouer. Et dès qu'on peut, on participe à des festivals. On sillonne la France pour aller jouer au flipper. Donc, il y a plein de festivals. Le dernier qu'on a fait, c'est au Tréport. Et puis, le prochain, ce sera au GAV, près de Nantes. Et oui, c'est super, parce que tu rencontres des gens passionnés de flippers. C'est notre passion, là. Et j'espère qu'elle va durer un moment encore.
C'est quand le rassemblement à Nantes, là, des flippers?
C'est au mois d'octobre, pendant les vacances d'automne. Ouais. Donc, voilà, c'est super. Et puis,
Il y a un flipper dont tu rêves?
Eh bien, écoute, ouais, il y en a plusieurs, les derniers notamment, parce que nous, ceux qu'on a, bon, ils ont déjà quelques dizaines d'années, mais l'idée, ce serait d'en acquérir un qui est un peu plus récent, et notamment, bah, tu as Elton John qui vient de sortir sur le thème de la musique, tu as The Big Lebowski aussi qui nous plaît pas mal, c'est un...
Il y a Cléo qui vient de s'étouffer.
Ça, c'est un film que Xavier et Cléo adorent. Ils le regardent en boucle. Et puis, il y a un flipper qui est dédié justement sur ce thème-là de The Big Lebowski. Donc, on l'aime bien aussi. Mais bon, après ça, c'est dans un de nos rêves justement d'acquérir un de ces flippers-là.
Avant de partir, je vais aller me faire un flipper. Parce que je ne peux pas partir sans me faire un petit flipper. J'ai laissé Lisa terminer ma partie de flipper, hein. Que le but, c'est d'arriver à Brest, pas d'avoir une extra balle. C'est rigolo parce que avec Philippe, mon ami d'enfance, chez qui j'ai commencé cette transversale à Strasbourg, on en a fait des parties de flipper. Et le flipper, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas, ça revient vite. Et le vent souffle légèrement. Alors j'ai dit un ciel gris, il y a, pour être honnête, de temps en temps, des petites ouvertures bleues, pas désagréables. La famille était un petit peu déçue par le match nul du stade brestois contre Nantes. Reste en Ligue des Champions, on y croit. Alors, température de 11 degrés, et là, quelques champs et beaucoup de maisons. Et même un coq, quand je sors du Conquet pour rentrer dans l'Ocrist. Bon, j'ai pas le sentiment que c'est ma dernière étape. Hein. Pour moi, la dernière étape, c'est quand j'arrive à la maison. Parce que demain, je vais aller à Crozon. Mardi, la pointe du rat, puisque je suis obligé d'y aller. J'ai dit du rein au rat. C'est pas le tout de faire des jolis mots, il faut y aller. Et je rejoins le sentier côtier. La mer est basse. Mais à ma droite, j'aperçois un voilier avec une voile noire et une voile blanche. Et en face de moi, l'ancienne abbaye de Saint-Mathieu. Et le phare de la pointe Saint-Mathieu. Ah, j'ai oublié de remercier Louisa de m'avoir gentiment laissé sa chambre. Je manque à mes devoirs. Et en partant, Lisa m'a donné des saucisses de Molène. J'ai de quoi manger. Ça me permet de remercier vraiment chaleureusement toutes les personnes qui m'ont hébergé avec leurs moyens. Parfois, c'était un matelas dans le salon, c'était super. Parfois, c'était une chambre d'hôte avec deux serviettes, salle de bain privative. Tout était bien. Même la voiture de Git, c'était le bonheur. Et une mouette fait un piqué, chouf, elle a dû repérer un petit poisson. Et au loin, je vois Ouessant, très reconnaissable avec ce plateau, et comme une bougie plantée dessus, le phare du Stif. Ça me touche de passer devant le phare de la pointe Saint-Mathieu, parce que il y a 30 ans, j'étais venu faire un reportage, et j'essayerai de le retrouver pour vous partager ma rencontre avec le gardien de phare de la pointe Saint-Mathieu. De mémoire, son nom, c'était Jacques Malaisdoué. Je m'en rappelle parce qu'il me disait que ça voulait dire « maudit de Dieu ». Donc restez à l'écoute des balados. Pendant l'été, je disséminerai de temps en temps des petites pépites du passé. Je croise un jogger, il y en a pas mal ce dimanche matin. Alors ce que j'ai pris de loin pour le buste de Saint-Mathieu, c'était le mémorial pour tous les marins morts pour la France pendant les guerres. Et là je passe au pied du sémaphore et au pied du phare. Et ça souffle bien. Et là devant la petite église à la pointe Saint-Mathieu, il y a une voiture avec la porte ouverte. Chapelle Notre-Dame de Grâce. Je me suis permis de vous apporter ce sac, monsieur. Je suis passé devant, je vous ai vu que vous étiez chargé. Ah, et je me suis dit, je vais essayer de l'aider.
Oui, ben voilà, j'ai toutes mes affaires maintenant.
Est-ce que je peux vous poser une question? Je suis parti de Strasbourg,
oui.
Et là j'arrive à Brest.
J'arrive au Bourg aussi.
Voilà.
Et c'est en Finistère. C'est en Finistère ici.
C'est ça.
C'est pas la fin, hein. C'est pas la fin de la Terre, c'est le début. En breton, on dit « Penarbet », c'est-à-dire la tête du monde. Vous voyez bien, ça commence ici, après ça. Ça va en s'élargissant jusqu'à l'Oural, là-bas. L'Europe commence ici.
Mais alors pourquoi on dit « Finistère », fin de la Terre?
Non, non. « Finis » en latin, ça veut dire « la limite ». Il y a toujours deux limites. Un bâton a deux limites, il a deux bouts, si vous voulez.
Je peux avoir votre prénom?
Joseph.
Jo.
Bonjour.
Jo. Oui.
Et vous êtes prêtre?
Oui.
Et vous venez dire la messe?
Oui, tout à l'heure, oui.
À quelle heure?
À 11h.
Quel est votre rêve, Jo?
Oh, j'ai 92 ans, j'ai pas beaucoup de rêves, vous savez. Hein. J'attends.
Et vous attendez quoi?
Ben, la fin, que ça continue. Tant que je suis encore à peu près en vie, si je peux rendre service encore un peu par là, ça me suffit. Ah oui, vraiment, hein.
Vous dites 92 ans, on n'a plus de rêve.
Non.
Vous pourriez me dire, je rêve de rencontrer le Christ ou
Oui, ben ça, c'est depuis toujours, oui. Oui. Alors ça s'approche, j'espère au moins que ça s'approche tout le temps, de jour en jour.
T'as encore beaucoup de choses à sortir de sa voiture?
Non, ça y est. Je vais aller maintenant au cénotaphe. Il y a une cérémonie pour des marins morts pour la France, hein, c'est le mémorial. Et donc ce matin, on va... Il y a trois familles qui viennent là, de marins morts pour la France, et on va évoquer leur parcours, leur vie, etc., et leur sacrifice, et on va dévoiler leur photo, qui va être maintenant avec des milliers d'autres hein, de marins. C'est ça, c'est un lieu de mémoire ici.
Et à quelle heure elle a lieu la cérémonie?
Tout de suite, là, à 9h30. On y va, là, ouais. Oh, c'est tout simple, mais c'est beau, c'est simple.
Bon, ben alors, je vais peut-être y aller avec vous, 9h25.
Allons-y, je vais poser mon sac, là.
Là, il y a marqué « Intrum Varia Arcras ».
Notre-Dame des Grâces. « Intrum Varia », c'est Notre-Dame des Grâces.
Mais vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être prêtre?
Ben, j'avais envie de faire quelque chose. Écoutez, je suis un fils, mais... J'étais enfant pendant la guerre. Je viens d'entendre, il y a quelque temps, qu'on parlait du réarmement, la morale. Eh bien, figurez-vous que vers les années 1945-50, il y avait un grand mouvement qui s'appelait comme ça, le réarmement moral. On en a marre des guerres. J'ai perdu trois sœurs pendant la guerre. Hein. Trois sœurs. Des jeunes, des enfants. Hein. Et donc, les gens ont dit, on en a marre, il faut qu'on change ça. Et donc, on change la mentalité des gens, qu'on vive en frère, quoi, tout comme fait. Hein. Voilà. Et maintenant, vous savez, je peux dire que j'ai vu un miracle. C'est la réconciliation franco-allemande. Personne n'imaginait ça. On a réussi à faire ça parce qu'il y avait des gens de bonne volonté et puis sensés. Et des grands comme Schumann et d'autres, Monet. Bon. Et aussi, il y a eu très vite des jumelages entre eux, des communes de chez nous avec des Allemands. Moi, je suis allé, j'ai été invité en Allemagne en 1955. Vous vous rendez compte, 55, toutes les familles là-bas, comme ici, avaient des gens morts à la guerre. Alors là, je me dis, bon, il est temps d'arrêter ça, quoi. Et donc voilà, c'était un élément, mais comme j'étais chrétien, hop, et donc je me dis, bon voilà, si on pouvait un peu suivre le Christ, ça irait mieux, quoi. Ici, depuis très longtemps, il y avait eu un monastère, et donc les moines avaient commencé par faire un feu, entretenir un feu, de bon, passer la pointe ici, c'est du sport, hein, avec les courants qu'il y a là. Et donc depuis toujours, des moines s'étaient mis au service de la population. Là.
Vous êtes breton de naissance?
Oui, de Crozon, en face, juste en face.
Ah bah oui, j'y vais demain.
Ah bah c'est beau, vous verrez, c'est le plus beau pays.
Moi, on m'a dit que c'était Ouessant le plus beau pays. Tous les jours, on me dit que c'est le plus beau
pays.
Oui,
c'est les Ouessantins qui disent ça. Bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous verrez que la presqu'île de Crozon, c'est très varié en plus.
Là, devant nous, il y a un monsieur qui a mis les gants blancs. Hein.
Ah, vous verrez, la marine, les marins, ils ont le sens de la cérémonie. C'est bien, c'est beau.
Et donc là, il y a trois marins qu'on vient rajouter à ceux qui sont morts pour la France parce qu'on les avait oubliés.
C'est ça, vous verrez. Vous verrez. Ouais.
Et donc un cénotaphe.
C'est-à-dire, c'est un ancien fortin, vous voyez, du temps de Napoléon III. Et alors, ça a été aménagé maintenant. Un cénotaphe, on parle de cénotaphe. Donc, c'est un lieu de mémoire, mais sans les tombes des gens.
À l'hommage rendu à François-Marie Caro, Adrien Cassellini et Hervé Floch. À chaque fois, une personne différente a raconté l'histoire de ces marins honorés. Seulement aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y en a un qui était mort en Tunisie, et il y avait le Hervé Floch, il était de Plouescat. Ça a résonné pour moi qui suis passé à Plouescat, sous la pluie. Et il y a plus de 2000 photos qui sont là exposées de tous les marins mort pour la France. Et je quitte cette petite cérémonie dans le cénotaphe pour rejoindre le sentier côtier. Et là, je vois des vagues qui viennent s'éclater sur une balise rouge posée sur un rocher noir. Toujours aussi beau là. Il y a du soleil en ce moment. Mais le râleur, c'est dimanche matin et il y a plein d'autres joggeurs donc ils sont là. Pardon, pardon. Donc je me suis dit, allez, rentrons par l'intérieur un petit peu. Écartons-nous. Et là, je retrouve mes copines les vaches. C'est la famille Primolstein. Et à gauche, une vieille ferme qui a bien souffert de la tempête. On voit des morceaux de toit qui ont été arrachés. Et au loin, la pointe rouge du phare de la pointe Saint-Mathieu qui dépasse. Je suis un peu protégé du vent parce que le chemin est encaissé. Et j'arrive devant un joli petit moulin en bois. Il est écrit « Ce jardin est privé, mais n'hésitez pas à y entrer et à en faire le tour. Si la personne qui s'en occupe est présente, elle se fera un plaisir de dialoguer avec vous. » Vivre, ce n'est pas attendre le beau temps, c'est travailler maintenant sous la pluie et le vent. Un petit dicton écrit en breton juste au-dessus. Et il y a un chemin qui passe au milieu de plein de plantations. Et il a reconstitué un peu toute la côte avec des cailloux. Le lieu s'appelle le jardin du Vaéré. Vous pouvez taper sur internet, vous aurez des photos. C'est un peu une œuvre comme celle du facteur cheval ou de Picassiette. Enfin, lui, c'est beaucoup plus la végétation qui l'intéresse. Il y a un mélange de végétation et de reconstruction du phare de la pointe Saint-Mathieu, de différents bâtiments du coin, quoi. Tout son petit village miniature. Bon, bah, malheureusement, le monsieur dont m'avait parlé Lisa et Xavier n'est pas là. Mais je trouve hyper sympa, il y a une barrière, il est marqué, voilà. On peut y aller et respecter le lieu. Bon, ben, je profite que je suis un peu à l'abri du vent pour vous lire quelques messages. Marie-Hélène m'écrit sur hervé.pochon@gmail.com. Alors, mon rêve vous concernant, ce serait que vous puissiez poursuivre encore longtemps ces rencontres régulières avec vos auditeurs, car pour moi, elles sont source de découvertes tant par les lieux que vous traversez que par les rencontres que vous y faites. Et c'est tellement bon de suivre vos pas, souvent mouillés cette année, et de partager vos échanges avec les personnes que vous croisez. Ensuite, mon rêve à moi, pour tout dire, la difficulté qui m'a fait reporter de vous écrire, c'est que j'en ai beaucoup. D'abord, comme partagé avec plusieurs de vos auditeurs, le grand rêve pour moi, ce serait que toutes les guerres qui sévissent dans le monde s'arrêtent enfin. Ensuite, mes rêves plus personnels, car j'en ai pas qu'un, que mes enfants et petits-enfants puissent profiter de la vie et de ses innombrables bienfaits et beautés, comme j'ai eu le bonheur d'en profiter jusque-là. Que je parvienne à leur en écrire le récit succinct et que je parvienne aussi à leur écrire l'histoire de leurs ancêtres, non pas par un simple arbre généalogique qui dit trop peu de leur vie, mais en retraçant leur parcours et la description des lieux où ils ont vécu. Merci mille fois Hervé pour votre chemin qui ouvre nos horizons et à très bientôt. Merci Marie-Hélène pour vos encouragements et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais peut-être ça reprendra, hein. Pas de souci. Myriam, je me prends la tête depuis que tu es partie pour répondre à ta question, mais bordel, quel est mon rêve? Et ce matin, j'ai trouvé, Eureka, mon rêve serait de ne pas avoir de rêve. Et c'est mon cas. Mais de le vivre bien, voilà. Juste me contenter des jours qui passent et de la vie que je mène, sans chercher à tout prix à avoir des rêves et sans me comparer à tes autres auditeurs qui ont des rêves, eux. Et pourquoi moi j'en ai pas, et blablabli, et blablabla. Alors, question philosophique, mon cher Hervé, est-ce que le fait de ne pas avoir de rêve dénote un tempérament un tant soit peu dépressif, ou est-ce une preuve de sagesse au contraire? Je te laisse méditer là-dessus, et moi, ce matin, je décide de voter pour la deuxième solution. Bon voyage, et merci, 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 Myriam. Moi aussi, je vote pour la deuxième solution, Myriam. Marie complète un message de Stéphane lu dans une balado. Depuis que Stéphane et moi nous sommes trouvés, entre guillemets, nous redécouvrons le bonheur qui peut être vécu dans un couple quand la communication et la confiance sont des valeurs réciproques. C'est grâce à lui que j'ai découvert vos balados et bien plus encore, le plaisir de recommencer à marcher longuement dans la nature, de découvrir des espaces où la verdure et les méandres des chemins nous mènent parfois à des ruisseaux, des cascades ou des grottes qui nous émerveillent par leur beauté simple et inspirante. Mon rêve, bien sûr, est que la paix revienne sur cette terre et que notre belle planète retrouve sa pureté dans le respect de toutes les espèces qui y vivent. Mais j'ai aussi un rêve plus personnel, celui de trouver avec Stéphane une maison avec un petit jardin dont nous pourrions faire notre nid commun. En effet, pour l'instant, nous habitons à 30 km l'un de l'autre et ne pouvons nous voir aussi souvent que nous le souhaitons. Et quand Stéphane et moi ferons notre premier grand voyage à deux en juin pour rallier la Bretagne, nous penserons bien à vous. Belle et longue vie Hervé à vous et ceux qui vous sont chers. Merci de m'avoir lu. Merci de m'avoir écrit Marie. Damien, bonjour à toi grand marcheur. Je te suis depuis pas mal de temps maintenant, tu es devenu mon quotidien pour aller au travail. Comme le temps passe vite, tes partages à chaque balado me font poser tellement de questions sur moi-même, sur ce qui nous entoure. Je remercierai jamais assez Cédric qui a eu la bonne idée de partager ta balado lors de ton passage à Montbar pendant ta diagonale. Mon rêve, vivre jusqu'à la fin de mes jours avec ma femme et avoir une maison sur l'île d'Ouessant. Profite bien de cette Bretagne qui a tant de mystères. Bonne balado Hervé. Je te souhaite de vivre ton rêve Damien. Bon, à trop s'éloigner du sentier côtier, on se retrouve sur une route. Alors j'ai traversé Plougonvelin, il y avait le marché, et là, visiblement, il y a des jeunes avec des dossards. Excusez-moi, oui. Je peux vous demander, il y a une compétition là?
Oui, bah là on a une compétition de voile, je crois que c'est départemental. moi je suis en Techno Plus du coup, et bah, il y a beaucoup de catégories.
C'est quoi votre catégorie vous?
Techno Plus, donc c'est en dessous de 25 ans.
D'accord.
Bah moi je compte faire un podium. On verra bien.
Je vous le souhaite.
Merci.
Je parle votre prénom.
Alban Florian.
Mais c'est de la planche à voile?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Big 293.
C'est le numéro de votre voile?
Non, c'est... y a différentes sortes de planches à voile, en fait. Il y a les funboards, et nous, c'est des planches à dérive, du coup.
Là, vous vous mettez de la crème solaire parce que ça tape.
Oui, c'est ça. J'ai pas envie d'attraper un goût de soleil, là.
Quel est votre rêve, Alban?
Mon rêve? Je sais pas trop. Si on parle en tant qu'objectif, j'aimerais bien faire championne de France. Et mon rêve, plus tard, je voudrais continuer à rester sur les bateaux et à rester sur la mer, quoi.
Parce que vous habitez Plougonvelin?
Non, j'habite à Binic, mais du coup, on a fait le déplacement pour la régate.
Et vous avez quel âge?
J'ai 16 ans.
Quand vous voulez dire rester sur la mer, c'est trouver un métier qui vous permette de naviguer?
Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, je voudrais faire la marine marchande et pouvoir faire capitaine, ce serait bien.
Et ben, je vous le souhaite, Alban, et je croise les doigts pour la compétition.
Merci.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Et là, il y a une jeune femme qui gonfle. Qu'est-ce que vous...
Par contre, je suis arrivé au bout.
C'est vrai? Sinon, elle va éclater.
C'est ça.
Ah oui, sinon, elle est bien.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous gonflez, là?
C'est une aile de wing.
Donc, ça va avec la planche?
La planche, moi, je l'ai posée sur le sable, là-bas, mais oui, c'est ça.
Et c'est ces planches
c'est
avec un...
C'est la même chose que ça, avec un foil, là.
Un foil.
C'est la version moderne de la planche à voile qui vole au-dessus de la mer, ouais, c'est ça.
Et vous...
En espérant qu'on se prenne pas de cailloux, parce qu'il y a plein de cailloux par là.
Ah ben, c'est marée basse, un peu.
C'est ça. Ouais. Donc, faut qu'on s'écarte un petit peu, puis après, on est tranquille.
Je peux avoir votre prénom?
Oui, Nolwenn.
Quel est votre rêve, Nolwenn?
Ah, mon rêve, ce serait de pouvoir naviguer tous les jours, mais il faut aller travailler un petit peu aussi.
Et c'est quoi votre travail?
Moi, je suis couvreur.
Ah oui.
Voilà, je travaille sur les toits.
C'est rare les femmes couvreuses.
Ouais. Après, je travaille, je fais autant de bureaux que de.
Que d'intervention.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Quel est votre plaisir dans la couverture ?
Travailler dehors. Voilà.
Et quand vous êtes sur le toit, vous avez l'impression d'être sur votre planche à voile parfois ?
Ah, mais moi je travaille à Brest, on voit la mer de partout, de tous les toits de Brest, on voit la mer. On quitterait ce pays pour rien au monde.
Je comprends, avec un prénom pareil,
ah bah ça.
Vous pouvez pas aller en Corse. Hein.
Ah non, c'est sûr.
Vous aviez commencé avec une planche à voile classique et maintenant ouais. Vous êtes passé à ce modèle ?
Ouais, voilà, c'est ça.
Et ça s'appelle comment ce modèle ?
Un wingfoil.
Wingfoil.
C'est ça. Mais ça existe aussi en version planche à voile, ça s'appelle des wind foil.
Ah oui, avec le vent.
C'est ça.
Et là, wing, parce que vous avez une aile. Et
une petite planche, mais qui ne sont pas attachées l'une à l'autre.
Et alors, quel est votre plaisir dans cette activité ?
Eh bien, nous, on a 4 enfants. Et l'avantage de cette activité, c'est que ça ne prend pas de place dans une voiture. Beaucoup moins qu'une planche à voile. Faut juste... Donc, on peut les promener partout, nos petits wings.
Faut juste les gonfler, quoi.
Faut juste les gonfler, c'est bon. Ça.
Ben alors, je vous laisse débrancher la pompe et je vous souhaite bonne navigation.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci, au revoir. Ah, la mer qu'on voit danser juste à côté. Et le chemin longe entre l'avenue du bord de mer et les jolies maisons face à la mer. Et là, il y a une dame au volant d'une petite camionnette rouge. Est-ce que je peux avoir votre prénom, madame ?
Christine. Mon rêve, de vivre en Bretagne.
Parce que vous vivez où ?
En Gironde.
Et pourquoi la Bretagne ? Qu'est-ce que ça va être bien ici ?
C'est joli, je me sens bien. Et puis j'habitais Brest, c'était chez moi. C'est chez moi, quoi, la Bretagne.
Et alors qu'est-ce qui vous en empêche ?
J'ai 2 enfants, 2 petits-enfants en Gironde et je vais avoir un 3e.
Ah oui.
Voilà, voilà. Alors j'hésite toujours parce que j'aime bien être auprès de mes petits-enfants. Voilà, j'aime bien les voir souvent, et si je suis ici à Brest, c'est pas facile. Enfin, du côté de Brest.
Ouais, je comprends.
Ouais.
Il y a un peu aménagé, vous pouvez dormir dans votre camion ?
Ben, c'est ce que je fais, ouais.
Ah, super !
Ouais, ouais, je pars souvent avec mon camion, et puis voilà, je m'arrête quelque part, et j'ai mon vélo, je peux tourner autour.
Et qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, si c'est pas indiscret ?
J'étais éducatrice spécialisée. J'aime les enfants, j'aime bien écouter les enfants. Je faisais des mesures d'investigation pour des enfants qui étaient signalés en danger. Donc j'aime bien écouter, évaluer, j'aime bien comprendre les fonctionnements familiaux, tout ça. C'est compliqué parce que nous, on devait donner un avis au juge des enfants. Donc on sait que notre avis comptait. Alors, j'étais pas seule, hein. On travaillait en équipe. Mais on pouvait avoir des avis différents. Donc le juge des enfants tranchait. Après, eh bien, écoutez, on essaie de faire au mieux, quoi. Avec notre conscience, notre façon de voir les choses, sans savoir si ce sera la bonne décision, quoi. Si ce sera la bonne route.
Ouais. Christine, je vous souhaite de vivre votre rêve.
Ben, peut-être que j'y arriverai. Peut-être.
Il est jouable, ça dépend que de vous.
C'est vrai, ouais. Mais bon, c'est de laisser mes petits-enfants là-bas. Mes enfants, ils sont grands, mais les petits, j'aime bien les voir. Voilà.
Bon rêve et bonne route.
Et bonne route à vous.
Merci. Au revoir.
Je suis contente de vous avoir rencontré. Au revoir.
Merci. Et je laisse Christine dans sa petite fourgonnette aménagée. Et moi, je descends là en longeant une grande prairie avec des vaches. Il y a une ferme sur ma droite. Au loin, la mer. D'un côté des Primolstein, de l'autre côté des Limousines. Je suis sur la route du Minou et ça m'amuse parce que ma mère appelait mon père Minou. Donc de temps en temps, pour rigoler, nous on appelait Minou aussi. Mais ça faisait pas trop rire mon père. Hein. Et vous voulez connaître le surnom de ma mère ? Bon, c'est vraiment un foufoune. Elle a jamais su ce que ça voulait dire. Sinon. Mais ça, c'est pas mon père qui l'appelait foufoune. C'était ses cousins de jeunesse marseillais. Ils parlaient toujours de foufoune. Si elle avait su ce que ça voulait dire, elle aurait dit « Mais non, mais arrêtez !» Après être passé devant le phare du Minou, je remonte vers l'intérieur car le sentier côtier est fermé. Il a dû y avoir des dégâts suite à la tempête ou des éboulements. Et au loin, je vois Brest. Et le soleil fait des taches argentées sur la mer. Elle est beaucoup plus agitée que hier quand je suis rentré de l'île d'Ouessant, parce que tant mieux, comme ça j'ai pas eu mal au cœur. Comme on lit, j'aperçois des moutons. Eh bien, je profite de la remontée pour vous lire un message de Gaël. C'est lui qui m'avait dit d'aller au collège foufoufou. Mon rêve est de relier Paris à Trieste à vélo, sur mon vélo qui a pour nom Isidore.
Cette idée n'est pas si saugrenue qu'elle n'y paraît. Elle m'est venue à la lecture du roman « Ça raconte Sarah » de Pauline Delabraye Allard, que j'affectionne énormément. Le jour où j'effectuerai ce périple, kilomètre zéro, sera après un café à la terrasse du bistrot La Pétanque, place Maurice Chevalier, dans le 20e, là où tout a commencé. Si des fois tu n'as pas d'idée pour ton prochain voyage, je te conseille de lire ce livre. Et moi je vais à vélo à Trieste, toi tu fais le retour à pied. Et en podcast, on se retrouve pour l'apéro à La Pétanque. Postscriptum. Je suis content d'avoir entendu que tu as apprécié la visite du collège Foufoufou. Je n'y suis jamais allé, c'est qu'une découverte par les réseaux sociaux. Mais c'est chouette que ça serve aussi à ça. C'est un de mes objectifs de balade cycliste, mais pour le moment, je m'occupe de ma troisième fille qui est née le 11 avril. Eh ben, félicitations, Gaël, et bonne balado à Trieste. Et le pinson des arbres acquiesce. Et là, je traverse Plouzané. Il y a lotissement avec des maisons qui se ressemblent un peu toutes. Pas du tout les maisons traditionnelles, mais maisons modernes, baies vitrées, murs blancs, toits plats. Je passe par là. Car un auditeur qui a 16 ans, qui se prénomme Lomig, m'a dit « Oh, on voudrait vous héberger, parce que moi j'ai envie d'être journaliste. » Alors je me suis dit, pour l'hébergement c'est un peu compliqué, parce que c'est très près de Brest. Donc voilà, je fais durer le plaisir, mais pas au point de faire des étapes de 200 mètres. Mais en revanche, je vais passer.
Bonjour. Oh, monsieur Pochon, ça c'est une super surprise.
Oui, je voudrais voir Lomig, s'il vous plaît.
Ah bah Lomig, bah, et on se tutoie.
Oui, oui, il n'y a pas de problème.
Lomig.
Bonjour.
Bonjour Lomig.
Bah voilà, j'ai 16 ans, je suis au lycée.
T'es au lycée? Bon.
Et je suis votre marche.
Bon, et quel est ton rêve?
De devenir journaliste.
Et pourquoi?
Par rapport à mon grand-père, qui était journaliste à France 3 Bretagne, et il a co-créé France Bleu Brésil, donc RBO à l'époque. Et depuis mes 7 ans, j'ai une vocation et j'ai cette envie qui ne me lâche pas.
Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier?
Le contact et le social indirect avec les gens, je pense qu'il y a vraiment une volonté de discuter, une volonté de raconter, une volonté de parler, de faire du bien autour et d'apporter quelque chose d'assez important finalement dans le quotidien des auditeurs.
T'as envie de journaliste presse écrite, télévision, radio?
Moi ce serait plus soit radio soit télé. D'accord. Parce que c'est cette idée-là aussi de donner de la voix, de parler, d'être direct en fait. Je trouve ça vachement intéressant. Je sais pas pourquoi, l'écrit ça m'a jamais vraiment attiré. Parce que bon, pour moi c'est, on découvre pas la personne qu'il y a derrière, on ne sait pas vraiment qui elle est, on voit son style d'écriture, mais ça va jusqu'à là, alors que on peut convaincre les gens avec une voix, on peut parler, et on ne le fait pas forcément avec l'écrit. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, quoi.
Et alors, est-ce que tu as des questions à me poser?
Quel est votre rêve?
Quel est mon rêve aujourd'hui? Je pourrais te faire une réponse facile qui est de te dire retrouver ma femme et mes enfants. Mais bon, ça, c'est pas un rêve. Je sais que ça va se produire. Quoi, voilà. Quel est mon rêve? De rejouer au théâtre, je crois.
D'accord. Voilà. Ok. Et j'ai quelques questions aussi. Comment vous avez réussi à en arriver là, à arriver sur France Inter, à faire toutes ces années?
Justement, je suis rentré à France Inter par le théâtre, puisque mon premier cachet de comédien, je l'ai fait dans une pièce de théâtre radiophonique en 1980. Et puis après, ça m'a toujours intéressé, intrigué la radio. Et je traînais pas mal dans la maison de la radio. Un jour, j'ai entendu qu'il y avait une émission où si on avait une idée d'émission, on pouvait la proposer. C'était comme un radio crochet, puis c'était un concours. Et puis j'ai gagné le concours. Et le premier prix, c'était une émission pendant l'été. Et donc, je suis rentré comme ça à France Inter. Et puis j'y suis resté pendant 30 ans à peu près.
Qu'est-ce qui vous a fait le déclic de vouloir commencer une aventure solo comme ça?
Quand je me suis fait licencier, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut en profiter pour faire autre chose. Donc j'ai fait un peu de maçonnerie chez moi, je me suis occupé des enfants, et puis au bout d'un moment je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. J'ai eu cette idée de partir à Compostelle et puis de faire un podcast tous les jours, et puis ça a bien marché. Et donc voilà, j'ai continué comme ça, après j'ai fait la Diagonale du Vide, et puis là, Strasbourg-Brest.
Et vous avez encore d'autres projets?
Je vois bien que les grandes traversées comme ça, c'est ce qui intéresse le plus les gens.
C'est vrai que pour moi, là, celle-là, elle a été plus difficile que les autres, quoi, parce que ma famille me manquait plus, j'ai plus ressenti des émotions que je ne soupçonnais pas.
Une forme de découverte, un petit peu.
C'est ça. Et donc, je ne sais pas si j'ai encore envie de creuser là-dedans. Bah, je crois qu'il faut toujours creuser, hein. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi de laisser toujours ma famille au même moment, de louper le printemps en famille et tout ça. Donc, chaque jour suffit, ça marche, quoi. On verra plus tard.
Mais alors moi, j'avais une autre question aussi. Je ne sais pas comment je pourrais la formuler précisément. Quels sont vos souvenirs? Parce que j'ai vu que vous aviez fait une série dans les années fin 90-2000, je crois, avec Rochelle, Johanna, Delaney et les garçons. Et donc je suis allé regarder, parce que moi j'ai une petite chaîne télé en ligne que j'ai commencé à développer un peu depuis 2 ans. Et du coup je diffuse des sitcoms, des séries, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver. Et quel a été votre ressenti? Parce que c'est vrai que là on est vraiment sur la série télé, on est vraiment sur le tournage. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Est-ce que c'est il y a plus de contraintes? Comment vous l'avez vécu?
Donc c'est une série qui s'appelait Cap des Pins, c'est ça?
Ouais, Cap des Pins.
Non, mais moi, tout ce que j'ai fait comme comédien, j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'avais un rôle qui était sympa, qui était le libraire, je crois. Hein. On a tourné en studio et on a tourné du côté de Dinard, Dinan. Hein,
ça. Avec le décor, ça se... Voilà. Ça se ressent vachement.
Et alors, pour te raconter un truc, c'est qu'on tournait dans les studios à Bry-sur-Marne. Oui. Et dans le studio d'à côté, il y avait Depardieu, Weber, Bouquet, qui est en train de tourner Bérénice. Oui. Et donc, moi, j'ai pris mon micro. Et puis, comme j'avais tourné avec Depardieu dans Cyrano, je suis allé le voir. Et puis, je lui ai dit, ah, ben, est-ce que je peux faire un petit... À l'époque, on parlait pas de podcast. Est-ce que je peux faire un petit reportage là? Il m'a dit, bah, si tu veux et tout, mais bon. Il avait été très gentil, quoi. J'avais pu parler de son rapport au théâtre classique, d'écouter Jacques Weber, d'écouter Carole Bouquet et de les interviewer tous. Et voilà, c'est que des bons souvenirs.
Bah ouais, bah, c'était vachement intéressant. Mais du coup, vous avez vraiment exploré, du coup, entre théâtre, du coup, série, parce que c'est aussi du théâtre finalement, podcast individuel et du coup, conception et du coup. Émission aussi.
C'est vraiment... Alors moi, c'est ce que j'aime dans le podcast, c'est que finalement, tu as une idée, tu la tournes, tu la montes, oui. Et puis après, tu la diffuses, quoi. Et tu es responsable de ta création, si je puis dire, du début jusqu'à la fin. Alors quand tu es comédien, tu dépends d'un réalisateur, tu dépends d'un producteur, tu dépends de beaucoup de choses.
C'est pour ça que j'ai vraiment aimé le podcast, parce que je me rends compte que j'aime pas les contraintes. Même au lycée, tout ça, depuis que je suis gamin, j'aime pas l'école, tout ça, ça m'énerve.
Ah oui.
J'aime pas avoir quelque chose autour de moi qui me dit quoi faire, tout ça. Et finalement, bon, après, il y a toujours des nuances. Hein. Mais si je suis amené à être journaliste, je ne sais pas si j'apprécierais tellement, en fait, ce côté-là, avec un cadre tout autour. Je pense que je pourrais m'adapter. Mais c'est vrai qu'on me dit souvent, mais il faudrait que tu fasses des trucs indépendants, machin, machin. Donc, je ne sais pas, je suis encore en pleine réflexion. Mais après, être journaliste sous une équipe derrière, je pense que si je prends plaisir, j'aimerais bien aussi, quoi.
Enfin, tu vois, moi, j'ai pas fait d'école, donc je peux pas te donner de leçons. Si à 16 ans, j'avais eu envie d'être journaliste, je pense que j'aurais essayé de faire une école, parce que ça t'aide à te créer un réseau et puis à débuter, quoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, le podcast, je m'en sors parce que j'ai 30 ans de France Inter derrière. Mmh. Mais si j'avais pas cette notoriété-là, entre guillemets, ça serait plus compliqué, quoi.
Ouais. Et ça va mal pour France Inter, en plus, en ce moment.
Je te le fais pas dire.
Voilà. Donc... Bah, du coup, pour répondre à la première question, bah, mon rêve serait d'être journaliste, mais avant tout, d'intégrer l'IUT de Lannion, qui me permettrait de faire une formation sous 3 ans. Parce que bon, je peux pas dire que mon rêve serait d'être journaliste si je peux pas intégrer l'école que je veux avant. Et ce serait vraiment le goal, parce que maintenant, pour être journaliste, c'est hyper galère. Enfin, je sais que je me suis renseigné par rapport aux études sup et tout, et au post-bac, parce que même en première, on nous demande de réfléchir par rapport à Parcoursup, qui est vachement avancé. Et bah c'est la formation la plus courte que moi j'ai trouvée, quoi. Et qui est la plus complète, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Moi, j'ai peur de l'ennui. Alors que quand je suis parti visiter le campus, bah les étudiants, ils n'avaient pas du tout l'air de s'embêter. Enfin, c'était très complet, enfin, c'était vachement... Donc ce serait vraiment mon but, quoi.
Et bah, je te le souhaite, que ce soit ton but, ton rêve, et d'être heureux.
Merci beaucoup.
Allez, Lomi, je continue ma route, il faut que j'aille jusqu'à Brest. Allez,
ciao.
Salut. Alors, j'ai laissé Lomic. Oui, parce que je disais Lomic, mais j'ai appris qu'on dit Lomic en breton. Ça veut dire petit Guillaume. Bah, préparer sa rentrée, hein, parce que là, c'est la fin des vacances. Demain, il retourne. Et puis, Mathiline, le petit frère, ça veut dire Mathurin. Et puis, Gwen et Hugues, qui sont tous bretonnants, quoi. Les enfants parlent breton couramment, sont dans des écoles, et parce que le grand-père était très bretonnant aussi, le grand-père maternel. Mais gentiment, Hugues m'a rapproché de Brest à la Maison Blanche pour voir la pancarte. Brest, voilà, avec les petits bungalows colorés qui font un peu penser aux calanques à Marseille où chacun a construit sa petite baraque au bord de l'eau. Et après, on longe là comme ça le port militaire et là j'ai le château de Brest avec différents navires militaires qui sont accostés juste en bas. Et Lomic me disait que lui, il avait été dans une école où on était puni si on parlait en français, quoi. Et donc, ça l'a un peu dégoûté du breton. Voilà. Quand on veut trop bien faire, eh ben, ça a des effets secondaires. Et pourtant, aujourd'hui, au lycée, il a un peu plus de plaisir maintenant qu'on le force plus. J'ai l'impression qu'il y a une mouette qui m'a chié dessus, là. Ah bah merci pour l'accueil. J'en ai sur mon vêtement de pluie. Ah bah il y en a un petit peu sur le micro, dis donc. Ah oui, oui, ça sent, hein. Merci la mouette. Ce que vous entendez, ce sont les fontaines devant l'hôtel de ville. Et là, il y a une dame qui accroche un joli drapeau. Bonjour madame, c'est quoi votre drapeau?
Bah c'est le drapeau transgenre.
Ah. Et pourquoi vous l'affichez aujourd'hui?
Parce qu'il y a un rassemblement aujourd'hui à 17h.
Devant la mairie de Brest?
Oui, sur la place de la Liberté.
Bah dis donc, j'ai bien fait d'arriver.
Effectivement, oui.
Je suis parti de Strasbourg, à pied. J'y arrive aujourd'hui, pile, vous êtes en train de fixer votre drapeau sur la rampe devant la mairie.
Bah c'est parfait, vous allez faire la manifestation avec nous.
Bon, pour le moment, vous êtes trois.
Ah bah.
Vous espérez combien de personnes?
Un peu plus, si possible.
On n'est pas organisateur.
Non, vous êtes juste participante.
Exactement.
Et alors, vous êtes tous les trois ou toutes les trois transgenres?
Femme transgenre, garçon trans.
Garçon trans, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je suis née fille, mais que je suis un garçon.
D'accord. Et est-ce que je peux avoir votre prénom?
Alix.
Nina et Aurora.
Aurora, elle est en conversation. Quel est votre rêve, Nina?
Mon rêve? Je veux que le monde s'épanouisse dans l'amour et que les gens arrêtent de se taper dessus.
Alix?
Que les artistes ou les gens qui sont opprimés puissent enfin être entendus.
Tu es artiste?
Oui.
Et tu t'exprimes dans quelle branche?
Le dessin et la couture. Et le cosplay aussi.
C'est quoi ça?
C'est une pratique qui consiste à se costumer en personnage de pop culture.
C'est une question un peu bateau, mais...
Les bateaux à Brest, il n'y a pas de problème.
C'est vrai, ça. Est-ce que c'est difficile d'être transgenre en 2024?
Auprès des gens, en fait, pas tant que ça. La plupart des gens s'en fichent complètement. On leur dit qu'on est trans, et puis ben voilà, c'est acté, il n'y a pas de souci. Ce qui est difficile, c'est tous les gens dans les médias, tous les gens qui ont la parole, qui propagent des propos transphobes, comme si on était quelque chose de tellement important. Non, voilà, je suis une femme, Alix est un garçon, Aurora est une femme. Fin. Parfois, certaines d'entre nous sont prises pour des hommes. Et quand on dit aux gens « non, c'est elle », ils se corrigent et fin de l'histoire. Les gens sont sympas, il n'y a pas vraiment de problème. Mais il y a des personnes qui abusent de leur parole pour propager de la haine. Et c'est contre ça qu'on est là aujourd'hui.
Mais alors, vous dites Alix alors que c'est devenu un garçon?
Oui.
Et pourquoi vous... C'est un prénom de garçon, Alix?
C'est un prénom mixte.
Ah, d'accord. Et c'était votre prénom au départ?
Non, c'est un prénom de choix.
Décrivez-moi votre drapeau.
Le drapeau transgenre, il est bleu ciel, rose et blanc. Donc, bleu ciel pour les hommes transgenres, rose pour les femmes transgenres et blanc pour les non-binaires.
Pas compliqué, la vie.
Non. Et il est beau.
Oui, en plus.
Alors, moi, je dirais qu'il est un peu trop pastel, presque trop discret par rapport au drapeau LGBT qui est l'arc-en-ciel. Oui. Le vôtre est plus doux.
Oui, il est plein de douceur, il est plein d'amour. Moi, je suis là pour l'amour. Je suis là pour revendiquer ça contre, justement, les cris de haine. On est là pour faire un cri d'amour. Alors, notre drapeau, il est tout doux, il veut de mal à personne.
Alix, il m'a dit qu'il était artiste.
Oui.
Et vous, Nina, vous faites quoi dans la vie?
Beaucoup de choses. Avant tout, déjà, je me remets de ma dépression.
Je vais vous dire que c'est pas un métier, mais bon.
Ah non, malheureusement.
Ça prend du temps.
J'étais informaticienne et je suis aussi artiste. J'écris, je fais des vidéos, je fabrique des costumes aussi. J'ai un répertoire très 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 vaste.
Vous avez un site ou...
J'ai une chaîne qui s'appelle Sorcière Bretonne, quelque chose qui parle des mythes et légendes de Bretagne et qui parle de sorcellerie dans le cinéma, etc.
Et vous vous considérez comme une sorcière ?
Bah oui !
En quoi vous êtes une sorcière ?
Bah, je pratique la sorcellerie tout simplement. Je suis des rituels séculaires qui sont liés au rythme des astres. Je fais des célébrations. Il n'y a pas longtemps, c'était le sabbat Beltane, qui est l'ancêtre de la Saint-Jean. Voilà, donc une fête du feu que j'ai fêtée à ma façon. Je suis une sorcière de l'amour qui rend hommage à Aphrodite Vénus.
Donc vous jetez des sorts positifs, mais des mauvais sorts aussi ?
Ça m'est arrivé de jeter des mauvais sorts, mais en général, en termes de sorcellerie, une des premières choses que les débutants apprennent, c'est ce qu'on appelle le triple retour. C'est quand on lance un sort, de façon à peu près certaine, il nous reviendra dans la figure trois fois. Donc on évite de jeter des mauvais sorts, parce que ça peut vraiment nous mettre en difficulté.
Comme on dit, ça calme.
Ça calme beaucoup, oui.
Ok.
Donc moi, je lance des sorts d'amour pour le monde entier. Comme ça, s'ils me reviennent, je suis encore plus heureuse. Et en ce moment, je suis très, très heureuse.
Et bien alors, je vous remercie et je suis très heureux de terminer ma balade au Strasbourg-Brest en votre compagnie. C'est ici, devant la mairie de Brest, que se termine cet épisode. Mais ce n'est pas la fin. On se retrouve dès demain. Et si vous voulez savoir qui va m'héberger ce soir, soyez là. Je compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien. Bonne balade à tous et ciao!
Ça résonne.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.